C'était donc un match difficile jusqu'à la 75e minute. Coup de pied arrêté, erreur du gardien. Une première mi-temps laborieuse pour les Français face à des Croates offensifs, mais qui marquent contre leur camp à la 18e minute. Égalisation croate de Perisic 10 minutes plus tard. Pénalty et but de Griezmann 10 minutes plus tard encore. Puis les buts de Pogba, Mbappé, Mandzukic. 4-2 pour les Français, champions du monde. Vous êtes bien sur France Culture. Elle est finie l'époque où les médias sérieux laissaient au seul journal L'Équipe le soin de parler football, et d'en parler très bien d'ailleurs, et où de vénérables journalistes pensaient que jouer une rencontre à l'extérieur, c'était la jouer dehors quoi, en plein air, n'est-ce pas ? Fabien Archambault, bonjour.
Bonjour.
Le foot est un vrai sujet de société, quoi qu'on en pense, peut-être plus encore quand la France gagne. Merci d'être avec nous pour en parler. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Limoges, historien du foot. L'ouvrage que vous avez co-dirigé en 2016 avec le sociologue Stéphane Beau, Le football des nations, des terrains de jeu aux communautés imaginées, aux publications de la Sorbonne, vient de paraître en poche. Vous deviez être rejoint en ce studio par Mohamed El-Khatib, le metteur en scène, ancien footballeur, mais nous l'attendons toujours et nous l'espérons toujours. Est-ce que vous avez, Fabien Archambault, dormi un peu avant de venir jusqu'ici?
Très peu, hein, mais c'est très, l'horaire est quand même matinal, et puis j'étais sur les Champs-Élysées avec beaucoup de monde, hein, plusieurs centaines de milliers de personnes. Alors, comme historien, pourquoi les Champs-Élysées? C'est ce qu'on peut se demander. Pour reprendre les termes de Daniel Tartakovsky, c'est un rituel de souveraineté nationale. C'est-à-dire que les Champs-Élysées, c'est pas rien, hein, c'est l'endroit où on ne manifeste pas, hein, les pouvoirs publics jamais ne donnent l'autorisation. Et depuis 1998, et ça avait été un peu par effraction que ça s'était passé, puisque rien n'était prévu, la circulation n'avait pas été arrêtée, et tout d'un coup, il y avait 1 million de personnes qui s'étaient retrouvées là. Donc, pourquoi est-ce que le public des supporters éprouve le besoin, bon, de sortir dans la rue, d'envahir l'espace public pour faire la fête? Ça, on l'a vu dans tout le pays. Mais pourquoi à Paris, la direction, l'endroit où il faut aller, c'est les Champs-Élysées? C'est que finalement, les supporters ont très bien compris que ce qui se joue dans une Coupe du Monde de football, et ça c'est un processus qui a commencé en Amérique du Sud et qui s'est répandu en Europe, c'est l'affirmation du prestige national. C'est-à-dire que le football remplit cette mission dans les sociétés contemporaines, et c'est normal en France qu'on se retrouve sur les Champs-Élysées, puisque c'est là que la nation manifeste son unité.
Un 14 juillet du lendemain, alors, comme l'écrit Laurent Geoffrin ce matin dans Libération. Étonnant d'ailleurs cette réaction de Didier Deschamps à la victoire, qui n'a pas dit « Vive la France », mais « Vive la République ».
Oui, alors ça c'est une évolution, hein, depuis 1998. C'est plutôt rassurant, enfin c'est plutôt un beau message. Ce qui est intéressant là, c'est que les pouvoirs publics ont admis le fait que voilà, que cette culture populaire, qui est la culture populaire du football, a droit de citer sur l'espace des Champs-Élysées. Champs-Élysées, donc en 98, c'était juste avant les festivités du 14 juillet. Là, on est juste après, ce qui veut dire que les Champs-Élysées sont pavoisées. Et donc, tout le décorum républicain est en place pour accueillir une manifestation de joie après une victoire sportive.
Bon, sur le match d'hier, Fabien Archambault, vous étiez pour la France ou pas? Pas tout le long de la compétition, je crois.
Ah non, oui, comme tout le monde, mais je pensais pas qu'il gagnerait. En fait, hein, on a des amis, hein, pronostiqueurs, qui eux savaient que ça arriverait. Moi, honnêtement, je pensais que ça s'arrêterait en huitième de finale, quart de finale. Donc, c'est plutôt une agréable surprise.
Bon, est-ce qu'il y a une justice esthétique? Est-ce que cette coupe a récompensé l'audace, la prise de risque, la beauté du jeu?
Alors, Didier Deschamps, je crois, a répondu là-dessus hier soir, hein, en disant « Est-ce que nous sommes un beau champion du monde ?» Nous sommes champions du monde. De ce point de vue-là, on voit son passé d'entraîneur de la Juventus de Turin. Je trouve que cette équipe de France ressemble beaucoup à la Squadra Azzurra, l'équipe d'Italie qui, en 82, avait commencé très difficilement son mondial et finalement était devenue championne du monde. Pas avec un très beau jeu, mais une équipe équilibrée, rigoureuse tactiquement et très réaliste. C'est un peu ce qui s'est passé hier contre les Croates, qui ont dominé tout le match, mais les 4 buts ont été marqués par la France.
Bon, alors est-ce que vous avez commencé à écouter, à lire les commentaires sur cette victoire? On pouvait redouter une avalanche d'interprétations, de surinterprétations de ce que cette victoire représente, de ce que cette équipe représente, et puis de ce que chaque joueur pris individuellement représente. Et finalement, il y a une certaine modération, en tout cas dans la presse aujourd'hui. On peut tout faire dire au foot. Qu'est-ce qui vous paraît judicieux de dire de la conclusion de cette Coupe du Monde pour la France?
Que le football est un objet très plastique. C'est-à-dire que finalement, hein, par rapport à 98...
Dans tous les sens du terme, non, voilà, c'est peut-être pas du plastique.
Oui, mais au sens où on peut lui faire dire beaucoup de choses. Hein, c'est-à-dire que le football en France, depuis 98, et en ça, il rejoint les autres grands pays européens de football, devient une métaphore du destin de la société. En 98, on a dit black, blanc, beurre. On pourrait le redire là, hein, c'est-à-dire que le football est pratiqué essentiellement. Enfin, c'est un sport professionnel. Donc il est très difficile, avec une sélection qui est énorme pour arriver au plus haut niveau. Donc quels sont les milieux sociaux qui acceptent de prendre ces risques c'est-à-dire que dès l'adolescence, de pratiquer un sport où il y a une chance sur mille d'arriver au plus haut niveau, les classes populaires. Et les classes populaires en France sont issues de l'immigration depuis plus d'un siècle, on le sait, en partie issues de l'immigration. Donc finalement, c'est normal hein, que l'équipe de France reflète les flux migratoires depuis une vingtaine, trentaine d'années. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est la victoire, donc tout va bien, tout le monde est beau. En 2010, finalement, on a un peu le même genre d'équipe, mais là, tout va mal et donc le football devient le prétexte à diffuser des messages politiques. Alors pour répondre à votre question, hein, Stéphane Beau en 2010, le sociologue, avait écrit « Affreux, sale et méchant » sur en gros le déchaînement médiatique contre les joueurs de l'équipe de France. Là, pour l'instant, hein, ce sera beau, propre et sympathique. C'est-à-dire qu'ils sont parés de toutes les vertus, toutes les qualités.
C'est vrai qu'on n'aimait plus vraiment cette équipe de France entre l'affaire Zaïa, du nom de cette prostituée qui aurait eu des relations tarifées avec des stars de l'équipe quand elle était encore mineure, les caprices des Bleus en Afrique du Sud, l'affaire dite de la sextape en 2015. Il fallait juste gagner, en fait, pour renouer avec le souvenir du siècle passé. Il fallait juste ça.
Oui, bien sûr. Hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'en 98, ça avait commencé. Hein, c'est que pourquoi est-ce que la France n'est pas un grand pays de football au sens où qu'est-ce qui définit un grand pays de football c'est quand, en gros, les élites sont accueillantes à cette culture populaire, cette culture de masse. Les élites en France s'en désintéressaient parce que le football ne leur donnait pas ces bénéfices symboliques qui pouvaient donner à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Angleterre, c'est-à-dire une victoire en Coupe du Monde.
Vous parlez de quelles élites en l'occurrence ?
Alors les élites intellectuelles, les élites politiques, les élites économiques qui suivent. Depuis 98, les élites économiques se mettent à investir dans le football parce qu'elles se rendent compte qu'elles peuvent gagner de l'argent.
Il y avait déjà Casino pour les Verts, PSA, Peugeot, pour Sochaux.
Oui, bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Angleterre ou en Italie, où là, vraiment, toutes les grandes entreprises du pays investissaient dans des clubs de manière beaucoup plus massive qu'en France. Ce qui fait que le football de club en France est toujours resté périphérique par rapport à ses grands voisins. 98, c'est un peu comme... En 1848, il y avait les républicains de la veille et les républicains du lendemain. C'est ce qu'on a appelé le phénomène footix. Tout d'un coup, beaucoup de gens se sont retrouvés à aimer le football ou à s'intéresser au football alors qu'ils n'y connaissaient pas grand-chose. Le premier d'entre eux était Jacques Chirac. On se rappelle hein, qu'il était très maladroit dans les tribunes du Stade de France et qu'il ne savait pas trop comment on faisait, enfin quels étaient les rituels de manifestation de la joie qui étaient autorisés et qui étaient admis dans cette enceinte. Depuis... on s'est bien rattrapé et le cycle s'est enclenché jusqu'à la prochaine fois.
L'équipe écrit aujourd'hui « Cette victoire est belle et il faut en profiter à l'excès parce qu'elle n'aura jamais été aussi peu politisée. Non, il ne faut pas attendre de nos bleus qu'ils supportent le destin national plus que de raison. Non, il ne faut pas les ériger en modèle de vertu ou d'intégration sociale. »
Pas politisé, je sais pas. Hein, parce que c'est une des premières fois qu'on a vu, hein, rappelons-nous, Emmanuel Macron, avant le départ des Bleus pour la Russie, qui a mis en scène le fait que non seulement il leur souhaitait une bonne chance, mais quasiment il mettait en scène une intimité dans le vestiaire, quasiment comme l'entraîneur adjoint de Didier Deschamps. Donc de ce point de vue-là, la France rattrape là aussi ses grands voisins, notamment les Italiens. C'est que cette... footballisation de la vie politique où le pouvoir politique fait quasiment en direct du football, de l'équipe nationale, une métaphore d'un destin politique ou d'un programme politique qui est celui d'Emmanuel Macron, ça on l'avait rarement vu en France. Donc c'est pas politisé, mais si, en fait c'est politisé de manière diffuse. De toute façon, à partir du moment où vous avez des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui manifestent dans l'espace public, c'est politique. Alors, ça dit quelque chose du pays, de la société qui vit cette fête-là.
Elles étaient là en France, dans toutes les villes et toutes les communes de France. Ces Français qui venaient supporter leur équipe, alors que lors des championnats nationaux ou européens, parfois s'en désintéressent complètement. D'abord peut-être parce que la Coupe du Monde, c'est encore une vraie sélection. On est peut-être moins dans une logique financière où les grands clubs européens gagnent à coup sûr parce qu'ils ont les moyens pour. Mais par ailleurs, dans les rues de Russie, il paraît qu'il n'y avait pas de Français. Et d'ailleurs, c'était très intriguant de voir face à l'Uruguay combien les supporters uruguayens étaient venus en masse. Certains avaient posé des congés sans solde, d'autres avaient vendu la voiture pour venir. Et les Français étaient très peu nombreux, même hier.
Oui, bah ça c'est les restes du fait qu'on n'est pas un grand pays de football, hein, ce que je vous disais. En revanche, les Sud-Américains, là, on est dans une réalité complètement différente. C'est que le football a servi pour eux de ciment culturel à la construction de ces nouvelles nations qui avaient besoin de s'opposer culturellement à la grande puissance qui les dominait, en gros, qui était l'Angleterre, hein, même si c'était un empire informel. Il fallait, pour accéder à une véritable indépendance, battre le colonisateur ou la puissance dominante dans son domaine le plus intime, le football. Donc, dès le départ, hein, dans les milieux populaires et dans la classe politique, dans les classes politiques sud-américaines, il y a cette importance donnée au football et qui fait que, bah oui, le Pérou, qui n'avait pas participé à une Coupe du Monde depuis 1982, bah oui, les Péruviens se déplacent en masse. Et il y a cette effervescence qui a été notée par les journalistes, hein, le fait que chaque fois que jouait une équipe sud-américaine, il y avait une ambiance dans le stade qui était extraordinaire. Mais ça, c'est une construction politique qui fait que, de toute façon, la Coupe du Monde, en tant qu'épreuve, est une création de l'Amérique du Sud. D'abord, c'est-à-dire, si la Coupe du Monde a perduré et s'est installée dans le calendrier sportif international, c'est parce que les Sud-Américains en ont fait une épreuve très importante. Donc l'Uruguay qui célèbre son indépendance en 1930 en organisant la première Coupe du Monde et en la finançant complètement, en faisant venir toutes les équipes européennes qui acceptent de venir, le Brésil en 1950, etc. et l'Argentine en 1978, le Chili en 62. En comparaison, les Coupes du Monde qui sont jouées en Europe dans les années 50 jusqu'à l'Angleterre 66, il y a assez peu de spectateurs et les commentateurs se disent qu'on ne va pas pouvoir continuer. C'est pas un énorme succès populaire. Pour que ça le devienne, il faut des victoires. Et là, c'est l'Allemagne en 54, l'Angleterre en 66 et la France a dû attendre 98.
Et l'Amérique du Sud, elle, n'a pas passé la barre des quart de finale pour cette Coupe du Monde. On y reviendra dans la deuxième partie tout à l'heure. On a au moins fait semblant de se sentir français pendant cette Coupe du Monde.
Oui, bah oui, oui. Bah là, on est vraiment dans un rituel d'appartenance. Hein. C'est que la Marseillaise, hein, par exemple, qui était reprise sur les Champs-Élysées, il y a cette, dans la culture populaire, qui s'exprime dans un cadre national, la nécessité de trouver des signes d'appartenance. Et là, comme c'est des sélections nationales qui s'affrontent, bah, le drapeau et l'hymne national sont évidemment tout trouvés pour d'abord faire la fête. C'est d'abord un rituel collectif festif.
Donc on n'en est pas encore à ériger le stade Loujniki de Moscou en lieu de mémoire de notre identité, ou faire des chiffres d'audience sur TF1 hier, un outil de mesure de notre unité nationale.
Non, pas encore. Mais alors, ce qui est intéressant, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les Champs-Élysées comme espace de souveraineté nationale, c'est aussi un espace de souveraineté populaire. C'est-à-dire que autant, par exemple, le défilé militaire, on descend les Champs-Élysées depuis l'Arc de Triomphe. Là, ce qui se passait, c'était le rituel, en fait, sans faire de sociologisme primaire, hein, mais ça venait de l'Est de Paris. C'est-à-dire que, en gros, ces centaines de milliers de personnes arrivaient par la rue de Rivoli, remontaient les Champs-Élysées pour redescendre par les trottoirs. Donc là, on avait bien, en fait, hein, les classes populaires qui ont réussi à imposer au pays le fait que leur passe-temps favori, qu'est le football, a une légitimité culturelle nationale. Et c'est ce qu'on voyait hier sur le fait que c'était sur les Champs-Élysées.
Légitimité qu'elle n'a pas eue pendant longtemps. Et d'ailleurs, vous, Fabien Chambaud, en tant que chercheur, quand vous avez choisi de travailler sur le foot, c'était au début des années 2000. Ça se faisait à l'époque de se dire « je vais consacrer un travail universitaire au foot ». Bon, c'était 2 ans après 98.
18, oui. Alors, on était peu nombreux. Ça se faisait, mais certains pouvaient donner des conseils en disant c'est pas forcément un objet légitime de recherche. De ce point de vue-là, la France est en retard hein, par rapport aux pays anglo-saxons, notamment, où là, on voit hein, que le sport fait partie de la culture des élites, et donc évidemment, la recherche est aussi légitime dans le domaine du sport. Les pays catholiques ont un rapport, pluriséculaire, difficile avec le corps, fait que il y a cette distorsion entre des élites qui peuvent pratiquer le sport, mais qui n'en parlent pas.
Mais c'est bien dans les pays catholiques que le football s'est le plus développé. On a des images cinématographiques, beaucoup de prêtres en train de jouer avec un ballon. Et vous l'expliquez dans vos travaux historiques, Fabien Archambault, que l'Église, dans les pays où l'Église était très forte, et notamment l'Italie, le foot s'est développé bien plus vite qu'ailleurs.
Oui, tout à fait. Ça renvoie aux dynamiques de sécularisation dans les sociétés européennes, où la grande angoisse de l'Église, c'est de perdre le contrôle sur les jeunes. Sur la formation des jeunes. Au tournant du siècle, en France, en Italie, dans l'entre-deux-guerres, avec la concurrence du fascisme, et ensuite ça s'épanouit dans l'après-guerre, finalement l'institution qui est interclassiste, qui est géographiquement diffusée sur tout le territoire, c'est l'Église, et à partir du moment où elle choisit le football, notamment avec d'autres sports, comme moyen privilégié d'encadrer les jeunes, c'est là que le football devient un sport de masse. Donc il en reste quelque chose. Donc en Italie, c'est très spectaculaire. Hein. C'est-à-dire si le football devient le sport national en Italie, c'est parce que l'Église l'a choisi après 1945. En France, et ça on l'oublie, le grand vivier par exemple des pratiquants de la Fédération française de football, c'est la région lyonnaise, le Val-de-Loire, la Normandie, la Bretagne, c'est-à-dire les anciennes régions catholiques, là où l'Église a maintenu une emprise sociale un peu plus longtemps qu'ailleurs sur le reste du territoire.
Alors on évoquait tout à l'heure cette équipe qui a porté la France à la victoire, et si Kylian Mbappé est peut-être encore aujourd'hui un peu le symbole de l'enfant des banlieues, l'enfant de Bondy quand Zidane était le gamin des quartiers nord de Marseille, en tout cas il n'y a plus de revendications identitaires sur le terrain, nous semble-t-il, on est loin de l'époque où Zidane représentait les Algéro-Kabyles, Bogossian les Arméniens, les Arasous les Basques et j'en passe, vous l'avez entendu ça, est-ce que la mondialisation a fait son œuvre comme l'a écrit par exemple Azouz Begag dans une tribune dans Le Monde récemment.
Je suis pas sûr en fait que c'est-à-dire que dans la culture nationale qui en France est faite de plusieurs strates migratoires, c'est finalement normal hein, que on valorise quand on est d'origine arménienne celui qui lui aussi est d'origine arménienne. Je pense que là aussi, c'est le football. On projette, on plaque sur le football des problématiques qui n'ont rien à voir avec lui, qui sont notamment des questions identitaires ou communautaires. Ce débat-là est d'abord un débat politique qui est né en France en 96, à l'occasion du championnat d'Europe des Nations, où Jean-Marie Le Pen avait accusé les joueurs de l'équipe de France, et notamment Christian Carambeu, qui est d'origine kanak, de ne pas chanter la Marseillaise. Et à partir de là, une partie du discours médiatique s'est focalisée sur est-ce que ce sont des bons Français ? Et donc du coup, et c'est là qu'on voit que le football est bien politique, qu'est-ce qu'être Français, etc. Finalement, du point de vue du football, enfin, le football a toujours reflété, du fait qu'il est issu, pratiqué essentiellement par les milieux populaires, toutes les vagues migratoires des Polonais, des Italiens, des Espagnols, et des Algériens et des Africains maintenant.
Hier, à la 64e minute, Mbappé marquait le 4e but. L'équipe de France en était à 5 tirs cadrés, 4 buts. Est-ce qu'il ne faut pas juste la voir comme une équipe ultra professionnelle, travailleuse et qui réussit cette équipe-là sans lui donner plus de symboles que ça ?
Oui, tout à fait. C'est d'abord la réussite de Didier Deschamps qui joue. On a joué à l'italienne. C'est-à-dire pour ça, la première mi-temps était assez incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un tir cadré, mais deux buts. Pour la France, un tel réalisme, être dominé et arriver à mener au score, il n'y a que les Italiens qui d'habitude étaient capables de faire ça. Donc on va peut-être subir les reproches que eux ont subis pendant des décennies. C'est que Ils ne pratiquent pas un beau football, mais ils gagnent. Tant mieux, hein, de ce point de vue-là, pour le mouvement footballistique français.
À cette équipe de France du 21e siècle, de la mondialisation et des grandes migrations, mais de grâce, ne la surchargeons pas de symboles, écrivait Olivier Gaze, l'écrivain prix Renaudot récemment, grand amateur de foot. Ce moment-là, cette victoire des Bleus, c'est une pause métaphysique, comme il l'écrit joliment, et à l'échelle d'une nation, c'est extraordinaire et à ses yeux, c'est largement suffisant. Fabien Archambault, vous restez avec nous pendant le journal. Nous aurons encore jusqu'à 8h30 pour parler de ce que cette Coupe du Monde vous a inspiré comme réflexion peut-être sur l'état du monde. Et je voulais vous citer pour terminer Vincent Duluc dans l'Équipe ce matin. Dans 20 ans, à l'heure de l'anniversaire, le récit collectif glissera sur cette finale étrange, hors des codes, pour raconter le bonheur français d'un dimanche de juillet dans les rues d'un pays pris d'une fièvre oubliée, pendant que les Bleus étaient recouverts de confettis d'or tombés du ciel comme des morceaux d'une deuxième étoile et se lançaient comme des enfants dans les flaques de Loujniki.